Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft que vous pouvez retrouver en podcast sur radio.picassoft.net. Chose promise, chose due, on continue notre série d'émissions sur le droit d'auteur et les licences libres. Et aujourd'hui, on va apprendre à hacker le droit d'auteur à l'aide de licences libres. Et pour ce faire, je retrouve les dangereux hackers Stéphane, Rémi et Romain de Picassoft. Salut à vous.
Salut. Bonjour Quentin.
Bonjour Quentin.
Et Stéphane, je te laisse la main pour faire un rappel. Bienvenue sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière.
Alors avant même ce rappel, je vais préciser que la semaine dernière, j'ai oublié de citer mes sources. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas un cas de plagiat, parce qu'en fait on s'est inspiré et on a refait des choses à partir d'idées d'autres personnes, et que comme on l'a dit déjà la semaine dernière, eh bien les idées ne sont pas protégées par le droit d'auteur, elles sont à tout le monde. Mais tout de même, c'est quand même plus sympa de citer ceux qui nous avaient permis de faire cette émission et qui vont nous permettre de faire celle d'aujourd'hui. Je le fais donc en citant l'ouvrage « Options libres » de Benjamin Jean chez Framabook, Benjamin qu'on avait reçu la semaine dernière, qui est sous licence libre, on peut donc télécharger et lire sur framabook.org, et également un travail réalisé par Calimac, également connu sous le nom de Lionel Morel. Ce sont des vidéos d'introduction au droit d'auteur qu'il est venu enregistrer ici à l'UTC il y a quelques temps de cela, de 2 ou 3 ans. Et que l'on pourra retrouver sous peu à l'adresse librecours.net. Lionel Morel, on espérait l'avoir aujourd'hui au téléphone, mais ça n'a pas été possible. Mais comme on a donc la chance d'avoir ces vidéos, eh bien on va s'appuyer dessus pour le rappel. Et donc c'est parti, Quentin, tu peux envoyer la première émission, la première vidéo de Calimac.
Allez, c'est parti.
Le code nous dit que le droit d'auteur protège toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Alors cette énumération a une importance. Donc le genre ou la forme d'expression n'est pas prise en compte. Tous les types de créations sont protégeables, aussi bien des œuvres littéraires que des photographies, la musique, le cinéma et toutes les formes de vidéos, mais aussi toutes les œuvres de type art contemporain, par exemple, plus originales, qui accèdent, elles aussi, peuvent accéder, elles aussi, à la protection.
Alors, donc on a eu ici un rappel de la notion d'œuvre protégée. On précisera également, hein, Lionel en parle plus loin dans l'extrait, mais on l'a coupé un petit peu, eh bien que le droit d'auteur s'active dès le début du processus de création. On rappelle qu'il n'y a pas besoin de faire de dépôt, mais il faut en revanche que l'œuvre soit originale et mise en forme, puisque comme on vient de le dire, les idées ne sont pas protégées. On peut enchaîner.
Nous allons voir à présent quelles sont les différentes composantes du droit d'auteur. Jusqu'à présent, nous avons parlé du droit d'auteur comme quelque chose d'unifié, mais en fait, le droit d'auteur se découpe en plusieurs prérogatives qui bénéficient aux titulaires de droit. Les deux grandes branches principales du droit d'auteur sont le droit moral et les droits patrimoniaux. La première branche, droit moral, consiste en un droit de faire respecter l'œuvre et la personne du créateur. C'est une des marques du droit français dans notre législation. C'est un aspect qui est très protégé et qui constitue un petit peu l'identité du droit français en matière de droit d'auteur. Ce droit moral, il se découpe lui-même en 4 éléments. Le premier est le droit à la paternité. C'est le droit à ce que la qualité d'auteur du créateur soit reconnue et à ce que son nom, notamment, soit toujours cité lorsque l'œuvre est utilisée. Si vous mettez votre nom à la place de celui du créateur, vous violez le droit de paternité, et dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle souvent un plagiat, mais précisément du point de vue juridique, c'est une violation du droit de paternité de l'auteur, et notamment de son droit moral.
Donc on se souvient que la semaine dernière, j'avais essayé de me faire passer pour l'auteur de la Joconde, et j'ai été victime, pendant quelques secondes avant de révéler la vérité, de contrefaçon. Donc première partie, le droit moral, et donc seconde partie, le droit patrimonial.
Tu as été coupable, Stéphane, n'essaie pas de te dédouaner.
Alors nous allons voir à présent la question de la violation du droit d'auteur et les sanctions qui y sont associées. Alors on a vu les différentes branches qui composent le droit d'auteur. Toutes...
Excusez-moi, décidément...
Donc ça, c'était la première branche du droit moral. Il y en a une seconde, qui est celle du droit patrimonial, ou des droits patrimoniaux, qui ont trait à l'exploitation de l'œuvre. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on a en tête quand on parle de droit d'auteur. Dans les droits patrimoniaux, nous avons notamment le droit de reproduction, c'est-à-dire celui de faire des copies ou de fixer l'œuvre sur un support. Si on prend le cas d'un tableau, encore une fois, la possibilité d'utiliser l'image de cette œuvre dans un livre, la possibilité d'en faire des cartes postales, la possibilité de le numériser et de l'afficher sur un site internet, tout ça va résulter en des formes de reproduction qui relèvent de ce droit patrimonial.
Alors, Quentin a fait une fausse manip, mais c'est parce que je pense qu'il était pressé de me faire savoir ce que je risquais pour avoir été victime, enfin avoir été coupable. Ça fait deux fois que je l'ai fait aussi, de contrefaçon. Eh bien, Quentin, tu peux, vas-y, envoie, dis-moi ce que je risque.
Alors, nous allons voir à présent la question de la violation du droit d'auteur et les sanctions qui y sont associées. Alors, on a vu les différentes branches qui composent le droit d'auteur. Toute atteinte, tout acte commis sans autorisation de l'auteur raccrochable à une de ces branches constitue ce qu'on appelle une contrefaçon. C'est le terme qui désigne le délit associé à la violation du droit d'auteur. Contrairement à l'expression un peu courante, la contrefaçon dans ce domaine-là n'est pas limitée à la question de fabriquer des imitations de sacs ou de médicaments. La contrefaçon, c'est beaucoup plus large, ça concerne la violation des droits de propriété intellectuelle, et en matière de droits d'auteur, ce sera de reproduire une œuvre sans autorisation, de la représenter sans autorisation, ou même de violer une des composantes du droit moral sans l'accord de l'auteur.
Donc hein, on a revu, hein, le droit d'auteur se découpe en deux parties, le droit moral, le droit patrimonial. Si on viole l'une de ces deux parties, on est coupable de contrefaçon. Donc la première partie inclut notamment, pas seulement, mais notamment l'obligation de citer l'auteur. Et la deuxième partie également, pas uniquement, mais notamment, le fait de copier ou reproduire une œuvre. Donc ce que nous dit ce petit morceau, c'est que copier, c'est mal, en tout cas c'est interdit. Sauf quand même si, et on peut redonner la main à Calimac pour peut-être qu'il a une solution à nous proposer.
Donc si on reprend les éléments qu'on a vus jusqu'à présent, quand une œuvre est protégée, l'auteur bénéficie d'un droit exclusif. Aux États-Unis, on dit souvent « copyright, tout droit réservé ». Le principe s'applique aussi en France. Quand l'œuvre est protégée, tous les droits sont en principe réservés à l'auteur, ce qui signifie que vous allez devoir lui demander une autorisation préalable, c'est-à-dire avant de faire l'usage, vous devez aller voir l'auteur ou le titulaire des droits et lui demander une autorisation pour pouvoir utiliser sa création.
Mais du coup, Stéphane, t'as demandé à Calimac pour pouvoir réutiliser son contenu ?
Alors non, je n'y ai pas demandé. En fait, je n'avais même pas besoin de lui demander, on va le voir. Parfois, on peut avoir une autre solution pour justement peut-être détourner, contourner le droit d'auteur.
Alors nous allons parler à présent des licences libres et en commençant par les principes de fonctionnement de ces licences. On a vu précédemment que le mode de fonctionnement traditionnel du droit d'auteur, c'est un droit exclusif qui pose un principe d'autorisation préalable systématique pour tous les usages, sauf dans des cas précis où le législateur aura introduit des exceptions législatives et où là on pourra se dispenser d'aller demander une autorisation préalable. Donc le principe, c'est l'autorisation préalable et des exceptions où des usages vont pouvoir être libres du fait d'une exception. Le principe des licences libres, c'est en fait de renverser ce système. Par la licence libre, un auteur va, par le biais d'un contrat, indiquer qu'en principe, l'usage de son œuvre va être possible, et c'est uniquement dans des cas bien particuliers, des cas d'exception, où il va maintenir des conditions de réutilisation, où il va placer des interdictions, et où il faudra, alors à ce moment-là, revenir vers lui pour lui demander une autorisation préalable.
Donc, en résumé, eh bien, le droit d'auteur s'applique immédiatement, par défaut, et en quelque sorte, il l'interdit de faire quoi que ce soit sans l'autorisation de l'auteur, sauf quelques exceptions qu'a mentionné Calimac et dont on avait parlé la semaine dernière, sur lesquelles ne reviendra pas. Donc on pourrait dire que la culture n'est pas libre, mais en revanche on peut la libérer, c'est-à-dire que l'on peut associer une licence libre à ses créations culturelles en tant qu'auteur, et à ce moment-là, eh bien, on renverse les choses, on explicite, on donne un contrat a priori au monde entier qui lui explicite ce que l'on autorise à faire avec notre création. Alors, sur ces licences libres, on va dire un certain nombre de choses, mais pour commencer, eh bien, on va peut-être présenter les plus fameuses d'entre elles dans le domaine de la création, que sont les licences Creative Commons. Ce sont des licences qui ont été établies par Lawrence Lessig, avec l'aide notamment d'Aaron Schwartz, un acteur d'Internet à l'histoire particulièrement emblématique et tragique dont on aura l'occasion de reparler. Mais en tout cas, ces licences ont été établies donc par Lawrence Lessig, qui est un juriste, et donc elles sont considérées aujourd'hui comme une base solide pour mettre des contenus sous licence libre. Est-ce que quelqu'un veut nous faire une petite présentation des licences Creative Commons ?
Je peux faire une petite présentation de ces licences-là. Pardon. Alors, il existe 6 licences Creative Commons. La première, la plus simple, est la CC BY, qui indique du coup qu'il faut uniquement citer l'attribution, dire qui est l'auteur de cette œuvre. Une deuxième est la CC BY SA, qu'on retrouve assez souvent, qui du coup, il y a encore le BY, l'attribution. Et aussi le SA pour Share Alike, donc partage dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que lorsque cette œuvre-là est réutilisée, elle doit être repartagée avec cette même licence. Il y a la CC BY ND, je ne sais plus ce que le D veut dire, mais en gros c'est le pas de modification. Donc on a
Non dérivative,
merci Stéphane. Du coup on a le droit de réutiliser l'image, mais on n'a pas le droit de la modifier. D'ailleurs je me demande si l'exception du plagiat s'applique ici, de la parodie pardon, s'applique ici Stéphane, je ne sais pas si tu sais.
Probablement, puisque le principe, c'est que ces licences sont des contrats qui viennent au-dessus du droit d'auteur. Donc, de toute façon, elles ne peuvent pas surcharger. Enfin, elles peuvent ajouter des autorisations, mais elles ne peuvent pas enlever des droits au droit d'auteur. C'est ce qui fait que la première que tu as citée, c'est la licence CC BY, donc de citer la paternité. Eh bien, ça, en quelque sorte, on a vu qu'on ne pouvait pas l'enlever, puisqu'on ne peut pas citer, on ne peut pas renoncer à son droit moral par contrat.
Tout à fait, merci Stéphane. Une autre licence, du coup, la quatrième, est la CC BY NC pour non-commercial. Donc, pas d'utilisation commerciale. On peut réutiliser, on doit toujours attribuer, mais on ne peut pas s'en servir pour le vendre, la nouvelle œuvre. Et ensuite, les autres sont du coup des mélanges de ces licences-là. On a la CC BY NCSA, donc pas d'utilisation commerciale et partage dans les mêmes conditions. Et la CC BY NC ND, pas d'utilisation commerciale et pas de modification. Et il me semble, je ne sais pas si quelqu'un peut préciser un peu, que certaines de ces licences sont libres et d'autres ne sont pas libres.
Alors, c'est une définition qui est à la limite du débat, mais selon les définitions, on va dire, originelles du logiciel libre, eh bien, on ne peut pas mettre de restrictions à l'usage en fait, d'un logiciel ou donc d'un produit libre. Or, c'est ce que font la non-dérivative et la non-commerciale. Elles brisent, en fait, certaines des libertés fondamentales du logiciel libre. Et donc, elles sont considérées comme des licences de libre accès, mais pas des licences libres au sens de cette définition. Alors après, ça peut tout à fait faire débat, puisqu'elles donnent quand même un certain nombre de choses. On pourrait dire qu'elles augmentent quand même les libertés des utilisateurs, mais donc peut-être moins que ne le font les autres. Donc c'est le cas de la des clauses non dérivatives et non commercial.
Ok, merci beaucoup pour ça. Et j'aimerais juste citer deux autres licences qui sont équivalentes du coup à la CC BY SA, donc attribution et repartage dans les mêmes conditions. C'est la GNU Free Documentation License, ou GFDL, pardon, j'ai du mal avec les acronymes, et la licence Art Libre dont on avait déjà parlé et dont on reparlera encore un petit peu plus tard, je crois.
Oui, alors ces deux licences, hein, la GFDL, l'Art Libre, et donc ces trois, la Creative Commons BY SA, elles intègrent tous le mécanisme, alors qu'il y a plusieurs noms, mais le nom qui est le plus parlant, même si ce n'est pas le plus valorisant, c'est un mécanisme dit de viralité. On parle aussi parfois de réciprocité, c'est-à-dire que à partir du moment où vous réutilisez un de ces contenus, eh bien, vous êtes obligé de maintenir une licence équivalente, et donc à nouveau de retraduire les contenus sous la même licence. Ça a été fait à l'origine par les promoteurs du logiciel libre, et bien justement pour faire en sorte que il y ait en quelque sorte une diffusion plus large de ces principes et qu'il n'y ait pas de reprivatisation, hein, des contenus derrière.
Et du coup, Stéphane, est-ce que c'est facile, les Creative Commons?
Bah ouais, c'est facile, puisque pour le coup, on a vu, on a seulement six licences, donc il suffit de choisir parmi ces six, et en fait, on a à peu près tous les cas de figure que l'on peut se poser qui sont représentés sur ces licences. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui leur puissance, c'est qu'elles sont à la fois solides juridiquement, très simples à comprendre, hein. Rémi nous en a donné une explication, à chaque fois ça tient en une ou deux lignes, et puis facile du coup à utiliser.
Et du coup, là, je viens de créer une œuvre et comment je fais pour lui associer une licence?
Alors, il y a plusieurs façons de faire. L'idée, c'est de donner quelque chose d'explicite pour les utilisateurs. Donc, on peut, si on est sur une photo ou un dessin, on peut apposer le logo discrètement dans un petit coin. Si on est sur un site web, on va le mettre, par exemple, en bas de page. Si on est sur un livre, là, c'est facile, on va le mettre en quatrième de couverture. Si on est sur des fichiers informatiques, on va pouvoir les intégrer au fichier. L'idée, c'est qu'il faut que ce soit lisible pour l'utilisateur, afin que lui, en fait, en quelque sorte, se sentent protégés en utilisant les contenus sous licence libre, qu'ils sachent que le contrat que vous lui avez donné les droits que vous lui avez donné au-dessus du droit d'auteur, eh bien, sont disponibles pour lui.
Alors moi, je voudrais pas casser l'ambiance, mais en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'était parfois pas si simple de réutiliser du contenu. Par exemple, nous, à Picassoft, on essaie quand même de faire les choses bien, on diffuse des musiques sous licence libre, ou en tout cas sous licence d'accès libre, comme tu disais, Stéphane. Et donc, d'un côté, on diffuse nos émissions en CC BY, donc avec l'attribution, mais ça nous arrive de diffuser des musiques en CC BY NCSA, donc qui est plus restrictif, parce qu'elle interdit la réutilisation commerciale et la modification. Et donc, si quelqu'un récupère notre émission en CC BY, enfin, comment ça se passe? Est-ce que du coup on a violé la licence initiale de la musique? C'est quand même compliqué tout ça, Stéphane.
Eh bien oui, t'as raison, c'est pas si simple. Et effectivement, en faisant ça, eh bien, on n'a pas respecté la licence de départ. Alors on pourrait s'améliorer un petit peu. Par exemple, on pourrait mettre sur le site au moins « sauf mention contraire ». Encore, il ne faudrait pas oublier de donner cette mention. Alors, en général, quand on passe une musique, on reprécise la licence à l'intérieur de l'émission, donc et l'origine. Donc, on peut considérer que l'information circule quand même. Mais effectivement, globalement, c'est pas très simple. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que, en fait, on pourrait voir trois niveaux, quoi. Le premier niveau, c'est le droit d'auteur. Et on voit que le droit d'auteur, c'est quand même un droit qui est limitant, hein, qui limite un certain nombre d'usages. Donc les gens ont mis en place les licences libres pour se donner plus de droits. Mais effectivement, à l'intérieur de ces licences libres, il y a aussi plusieurs couches. Et lorsque l'on met une licence non commerciale, eh bien derrière, si on en a un usage, il y a plein de contextes où en fait on va se rendre compte que l'aspect commercial s'active, hein, sur le web. Il suffit qu'il y ait un peu de pub, il suffit qu'il y ait quelque chose et la clause commerciale va s'activer. Donc des fois on sait même pas bien. Non dérivatif, c'est pareil, hein. Est-ce qu'on a le droit de la redimensionner, l'image, de la recadrer pour la mettre sur un site? Non. Du coup on se rend compte qu'en fait c'est un peu compliqué. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui militent aujourd'hui pour mettre en place des licences libres qui vont diminuer, enfin qui vont maximiser en fait les libertés ou diminuer les contraintes. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a une septième licence qui existe au niveau Creative Commons qui s'appelle la CC0. Et en gros la CC0, elle dit on vous autorise à faire tout ce que vous voulez tant que c'est légal dans votre pays, quoi. Donc c'est une façon de réduire au maximum les choses. Alors concrètement, dans un usage en France, ça revient à utiliser une CC BY, mais en quelque sorte, voilà, c'est une façon de militer un petit peu pour une réduction de la portée des licences.
Alors par contre, ouais, il faut quand même faire gaffe parce que la CC0, en tout cas dans son texte ou dans un ancien texte, avait tendance à dire vous pouvez redistribuer sans même citer l'auteur. Comme tu me disais, mais c'est quand même bon de le rappeler, en France, ce serait illégal de redistribuer un contenu même en CC0 sans citer son auteur.
Exactement. Alors c'est son défaut, hein. Du coup, si on va rentrer là dans des... On va en citer d'autres, on va pouvoir en discuter un petit peu. Mais effectivement, son défaut, c'est qu'en disant zéro, elle sous-entend qu'on n'a rien à faire. Or, c'est pas vrai. Encore une fois, on doit continuer de respecter le droit national, mais ça n'est plus précisé en quelque sorte. Enfin, c'est écrit à l'intérieur de la licence, mais on ne le voit pas dans son titre. Alors, il y en a d'autres, des licences comme ça, un petit peu militantes, certaines même peut-être un peu poétiques. Romain et Rémi, vous avez envie de nous en lire quelques-unes?
Allez, je me lance pour la Copy Heart, qui dit donc « People copy stuff they like. Les gens copient les choses qu'ils aiment. They don't copy stuff they don't like. Ils ne copient pas les choses qu'ils n'aiment pas. The more a work is copied, the more valuable it becomes. Plus une œuvre est copiée, plus elle prend de la valeur. Value isn't taken away by fans, it's added by them every time they copy. La valeur n'est pas retirée par les fans, elle est ajoutée par eux à chaque fois qu'ils copient. Donc ça, c'est une licence qui incite les gens à copier en disant que bah, plus on va copier, et plus on va partager de l'amour pour cette œuvre, et plus on va faire gagner de la valeur à cette œuvre.
Exactement. Alors, il y en a d'autres, toujours dans la catégorie poétique, peut-être, Romain ?
Du coup, on a la « Do as the fuck you want to public license », donc qui dit « Everyone is permitted to copy and distribute verbatim or modified copies of this license document, and changing it is allowed as long as the name is changed ». Donc, en gros, on a le droit de copier le document et... le document de licence est de changer ce qu'on veut et le nom. Do what the fuck you want to public license, term and condition for copying, distribution and modification. Et zero, you just do what the fuck you want. Donc il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'on fait ce qu'on veut.
C'est ça, donc hein, c'est une licence avec un seul article, l'article zéro, qui dit, eh bien, faites ce que vous voulez. On n'est pas obligé de traduire tous les mots. Une licence un tout petit peu plus restrictive, on va dire, hein, un tout petit peu plus contraignante, mais qui reste un peu dans le même esprit. Rémi, si tu veux te lancer
ouais,
sur la
beerware. Alors, tant que vous apposez cette notice, vous pouvez faire ce que vous voulez de ce truc. Si un jour, on se rencontre un jour et que vous pensez que ça vaut le coup, vous pouvez me payer une bière en retour.
Voilà, donc c'est une autre licence hein, qui est un peu dans le même esprit. Alors elle a une seule version, hein, c'est la révision 42, il n'y en a pas d'autre. Et donc, voilà, donc on est ici dans le cas de licence qui, eh bien, en fait, en gros, cherche à dire qu'on souhaiterait renoncer en quelque sorte aux contraintes du droit d'auteur. Mais rappelons qu'on ne le peut pas en tant que tel. Donc utiliser ces licences est quand même considéré par un certain nombre d'autres personnes, comme étant moins solide juridiquement que d'utiliser des Creative Commons, ce qui restera, je pense, en tout cas mon conseil, si vous débutez, que vous vous lancez, partez sur Creative Commons, et après allez explorer, si vous voulez, des chemins un peu plus étranges.
Mais utiliser Creative Commons n'empêche pas non plus de demander aux utilisateurs de venir vous payer une bière en retour.
En plus. on essaye d'aller voir du côté de quelques exemples.
Et bah c'est parti pour une fois, ce ne sera pas le running gag de l'émission, mais on va en parler un petit peu plus sérieusement, parce que Stéphane, tu as publié un roman qui s'appelle Trace. Alors je pense que pour les gens qui écoutent régulièrement l'émission, ils le savent déjà. Donc tu l'as publié en 2018 sous licence Arlif chez Framabook, et donc bah, ça tombe bien vu que c'est les licences libres, c'est le sujet de l'émission. Donc moi, à la base, la question que je me suis vraiment posée, question peut-être un peu naïve, mais je ne me doutais pas qu'on pouvait à la fois travailler avec un éditeur, Framabook, hein, que tu as mentionné en début d'émission, et publier sous licence libre. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, ça veut dire qu'on peut quand même avoir un truc sous licence libre et le vendre à côté ?
Alors, plusieurs choses. Donc, d'abord, travailler avec un éditeur et publier sous licence libre, c'est évidemment techniquement possible. Donc, aujourd'hui, c'est même possible en vérité avec Framabook. C'est le seul éditeur de livres à ma connaissance qui fait ça aujourd'hui. Donc, ça reste quand même relativement marginal. Mais oui, bien sûr, c'est possible puisque la licence que j'ai apposée sur mon roman, la licence art libre, eh bien en fait, elle n'a pas de clause non commerciale. Donc Framabook a tout à fait le droit de revendre les livres. Ils peuvent d'ailleurs me reverser ou pas une partie de ces ventes. En l'occurrence, ils le font, mais ils ne sont pas obligés. Et si tu as envie, Quentin, de faire des copies, eh bien tu as le droit. Si tu as envie de les vendre, tu as le droit. Donc tu as le droit aujourd'hui de récupérer une copie de Trace, de la mettre dans une belle édition reliée et de la vendre au prix que tu souhaites. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut effectivement le vendre.
Alors justement, ça rejoint un peu la question que je voulais te poser après. En quelque sorte, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs qui aujourd'hui sont un peu peur de diffuser leur contenu sous licence libre. Ils ont peut-être peur de perdre le contrôle, de perdre de facto la paternité, même si pas légalement. Notamment par rapport à ce dont tu disais, c'est-à-dire le fait que quelqu'un reprenne ton œuvre, la reconditionne, la vende et en tire en quelque sorte tous les bénéfices. Qu'est-ce que toi tu penses de ça ?
Alors on peut même aller plus loin, puisqu'on a même le droit aujourd'hui de reprendre Trace ou un autre ouvrage sous licence libre, et on peut même en réécrire la fin, en modifier les personnages, enfin voilà, on peut faire plein d'autres choses qui pourraient faire peur hein, à un certain nombre d'auteurs, et effectivement, cette fameuse peur d'être dépossédé, de perdre tous les revenus potentiels que l'on aurait pu avoir, alors on peut en avoir peur, mais si on regarde un tout petit peu, en fait aujourd'hui il y a extrêmement peu de personnes qui gagnent vraiment de l'argent avec leur création artistique. Des nouveaux auteurs j'ai pas dit des jeunes auteurs, hein, des nouveaux auteurs comme je l'ai, parmi les nouveaux auteurs comme je le suis, c'est encore plus rare. Donc en fait, on a surtout peur d'un truc qui n'arrivera jamais. Et à l'inverse, eh bien moi, j'ai bénéficié d'un vrai travail éditorial, d'un vrai accompagnement éditorial, qui est quelque chose d'assez rare et d'assez précieux. Aujourd'hui, eh bien mon roman, il est diffusé. On en parle notamment pas mal dans les milieux libristes, etc. Donc du coup, je bénéficie à l'inverse aujourd'hui de sources de diffusion, d'appui et d'échange que je trouverais pas, que je n'aurais pas trouvé probablement dans le contexte de l'édition traditionnelle. D'abord, peut-être même que je n'aurais jamais été édité, que mon livre a été distribué à 50 exemplaires, etc., etc. Donc, c'est ce qui se passe plutôt en général, quoi. Donc, on retrouve un petit peu hein, le parallèle avec les logiciels libres. D'un côté, effectivement, il y a la peur de la réappropriation, que quelqu'un d'autre fasse des trucs très lucratifs avec notre idée géniale. Et puis la réalité, c'est que souvent il se passe rien et que la mise sous licence libre, eh bien, elle permet justement de maximiser la diffusion, les rencontres, etc.
Ouais, c'est ça, il y a toujours un décalage entre ce qui est possible théoriquement, c'est-à-dire des trucs assez horribles, et ce qui se passe en réalité, même si j'aime pas utiliser le mot bon sens, bienveillance et tout ça, mais finalement les gens savent que tu l'as écrit, voient ta démarche, et ça peut même quelque part encourager à acheter le bouquin pour te soutenir, pour l'offrir à quelqu'un. Donc au final, c'est souvent des chimères, quoi.
Et... ouais, vas-y, je t'en prie.
Moi je voulais passer une autre question si t'avais quelque chose à rajouter.
Non, c'était pour te donner un exemple en fait, justement, ouais, positif autour de ça, mais peut-être que c'était aussi ta question. Au cas où, je te donne ma réponse, puis après tu me dis si c'était ta question. Non seulement effectivement ça peut aider les gens à s'intéresser, au moins une partie, mais il y a également des exemples encore plus intéressants, et je vais en citer un. Alors, quand je dis « des », il y en a un, surtout, en tout cas, qu'on aime bien citer. C'est celui de David Revoit. C'est un auteur de bande dessinée qui fait donc une bande dessinée qui s'appelle Paper and 40, qu'on trouve sur papercarotte.com. Et donc, en fait, il a commencé en faisant des bandes dessinées en ligne sous licence libre. Et il se trouve que, dans son cas, il a mis en place un site de contribution mensuelle. Donc, n'importe quel lecteur peut lui verser un petit peu d'argent tous les mois. Ça commence à 1 euro. Et il se trouve qu'en fait, un éditeur de bande dessinée qui a pignon sur rue, eh bien, Glénat a décidé de republier, d'éditer son œuvre en bande dessinée papier, quoi. Réel matériel. L'autre était réel aussi. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Glénat avait tout à fait le droit, hein, de par la licence, de simplement récupérer les dessins, les publier, les revendre et garder 100% des revenus. Juridiquement, ils en avaient le droit. Ils ont fait un choix un petit peu différent. Ils n'ont pas signé de contrat, à ma connaissance, avec David, mais ils ont décidé de lui reverser d'être parmi les contributeurs mensuels, à hauteur d'un peu plus de 300 euros, donc quand même quelque chose de significatif. Et en plus, ils ont fait baisser de 5 euros le prix de vente des albums au public, donc en quelque sorte, ils ont rétrocédé une partie au public, et qui est en fait plus importante que ce que l'auteur gagne en général, puisqu'il gagne moins de 5 euros sur une bande dessinée. Donc à la fin, l'éditeur en fait a fait un choix de gagner moins d'argent et de rémunérer l'auteur, et aujourd'hui, David fait partie des auteurs de bande dessinée qui peuvent vivre au moins dans une partie significatif de leur art, ce qui, je crois, est relativement rare dans le milieu. Donc, en plus, il est possible que, même si ce n'est pas du tout le cas général, il arrive que, je ne sais plus comment il disait ça, mais quand les étoiles s'alignent vraiment bien, eh bien, ça devienne aussi une façon d'évoluer.
Ouais, donc, on peut avoir un cercle vertueux dans certains cas, et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui s'interrogent sur les licences Creative Commons qui interdisent la réutilisation commerciale, parce que ça empêche, de fait, ce genre d'histoire. Et alors, la dernière petite question que je me posais, c'est, on a vu que la licence art libre était équivalente à la CC BY, je crois.
Et ça,
CC BY. Toi, tu as publié ton roman sous licence art libre. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Est-ce qu'elle te plaît plus que la CC BY SA?
Bah déjà, il y avait le mot art dedans, donc tu reconnais que ça fait classe quand même. Et deuxième point, il se trouve que c'est une licence qui est française à l'origine, qui est antérieure au Creative Commons, qui est française. Elle n'aurait probablement pas vu le jour si les Creative Commons avaient déjà existé. Mais voilà, donc c'était vraiment juste un choix là, esthétique, on va dire, sur le nom et la provenance de la licence. Mais techniquement, dans l'ensemble de mes cours, par exemple, est publié aujourd'hui sous une Creative Commons by SA. Okay. Donc c'est le choix que j'ai fait plutôt en général, et voilà, c'était pour...
Ok, ça roule. Et ben moi j'en ai fini avec mes questions. Je ne peux que vous recommander d'aller lire Trace parce que c'est chouette.
Alors est-ce qu'on a le temps d'explorer quelques autres initiatives?
D'abord, je vais juste un petit point sur Trace.
Ben, je t'en prie. Parlez de Trace autant que vous voulez. Et après on interrogera Romain pour voir. Ouais.
D'ailleurs pour le chèque Stéphane, on va faire la fin d'émission.
En juin.
Non, du coup ben, sur Trace, ce que tu disais tout à l'heure aussi, que avec cette licence-là, les gens peuvent réécrire la fin. C'est ce qui se passe parfois. Et du coup, sur punkerzy.fr, il y a des bonus tracks qui sont des trucs écrits par un peu tout le monde.
Alors, il y en a une bonne partie qui sont par moi, mais il y a effectivement au moins une contribution qui a été faite par Neil, qui est un des étudiants qui est aujourd'hui à l'origine du chaton de l'école 42.
Finalement, c'est un peu le principe des fanfictions, mais avec plus de liberté et moins de risques. Donc, les fanfictions, ça existe déjà bien avant Internet, mais sur Internet, il y a des communautés gigantesques, des gens qui partagent des super moments. En fait, bon, voilà, je veux pas faire mon petit moment sentimental, mais par rapport aux licences poétiques dont tu parlais tout à l'heure, le fait que le fait de copier, de redistribuer, de modifier, ça ajoute de la valeur à l'œuvre originale. Moi, j'y crois vraiment, et je pense que les fanfictions c'en est la preuve, mais parmi d'autres choses, les samples, enfin, on peut retrouver ça dans la musique, dans tout un tas de vidéos, je sais pas, même. Quand on voit ce qu'on a, la classe américaine, enfin les trucs comme ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Donc l'idée, encore une fois, hein, c'est que, eh bien, le droit d'auteur. Alors après, hein, mais enfin voilà, on peut dire en tout cas que le droit d'auteur, il favorise pas tout ça a priori, quoi. Ouais, il a plutôt tendance à l'empêcher a priori. Alors après, évidemment, vous pouvez très bien faire un détournement, etc., une fanfiction, faire un peu tout ce que vous voulez. Mais le jour où, eh bien, vous avez choisi Tintin et que vous avez les héritiers de l'éditeur qui se mettent, ou de l'auteur plutôt, qui se mettent en ligne de bataille, eh bien, vous pouvez ce jour-là être embêté. On peut vous interdire, on peut vous obliger à verser de l'argent, etc., etc. Et donc, l'idée de la licence libre, encore une fois, on peut revenir à notre titre sur à quel droit d'auteur. C'est une façon, en quelque sorte, hein, comme également Lionel l'avait dit en introduction, mais de retourner les choses, et donc là vous donnez vraiment le droit aux gens de faire des choses, et s'ils le font, et bien en quelque sorte, ils le font sans risque. C'est toujours un peu peut-être paradoxal d'imaginer qu'on est fan d'un auteur, qu'on va travailler à partir de son univers, et qu'à un moment, en quelque sorte, on pourrait se faire, on pourrait nous reprocher ça, quoi.
Et puis surtout que juste, même si on doute pas des bonnes intentions de l'auteur, et que l'auteur informellement dit que ça ne dérangerait pas qu'on fasse, je sais pas, je reprends l'exemple des fanfictions, un jour il peut mourir, les droits patrimoniaux arrivent à quelqu'un d'autre, et là ça peut être une société d'édition ou des personnes qui sont un peu moins souples là-dessus et qui là vont vous attaquer. Donc les licences libres, elles continuent de protéger l'auteur, mais elle protège aussi la personne qui utilise ses œuvres, quoi.
On l'a bien vu la semaine dernière avec Antoine de Saint-Exupéry, hein, ouais. Parce qu'effectivement, il est mort en 44, et donc depuis, eh bien, les droits du Petit Prince ne sont toujours pas libérés. Et probablement que si on avait croisé Antoine de Saint-Exupéry à un moment, peut-être que contre une bière, ou pas avant un vol, mais un retour de vol, peut-être que contre une bière, il nous aurait autorisé à copier son Petit Prince.
D'ailleurs, j'ai une petite question sur ça. Est-ce que, par exemple, on peut retirer une licence libre ?
Alors, c'est pas une question triviale. Lionel en parle à un moment dans une de ses vidéos. En fait, parmi les droits du droit moral, eh bien, il y a l'autorisation de contrôler la diffusion, et donc il y a un droit de retrait. Donc en fait, en théorie, en tout cas lorsque déjà je fais un contrat avec une personne, j'ai le droit de décider de retirer, donc d'enlever à quelqu'un l'autorisation de diffuser mon œuvre, mais faut quand même pas exagérer, là ça deviendrait quand même vraiment un droit incroyable. Dans ce cas-là, il faut que je compense financièrement la perte que mon retrait a créée. Donc dans le cas d'un éditeur, on pourrait imaginer, voilà, que ça se fait un peu. Évidemment, si vous avez mis en place une licence libre, techniquement, on va dire que c'est pas possible, mais je pense qu'il faudrait retrouver chaque personne et lui verser à chacun un petit quelque chose pour lui compenser. Donc on peut considérer, à mon avis, hein, qu'on peut pas revenir en arrière sur une licence libre. Après, vous avez tout à fait le droit de cesser de diffuser votre œuvre sous licence libre, mais par contre, toutes les copies qui ont été diffusées, elles, effectivement, sont sous cette licence et continueront de vivre en tant que telles.
Ok, merci.
Alors on a teasé une prochaine émission peut-être sur Aaron Schwartz, éventuellement la recherche scientifique et ce genre de thème. C'est peut-être le moment pour dire un petit mot sur Wikipédia. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire un petit tour dessus, sachant que j'en profite pour teaser aussi une future émission sans doute sur Wikipédia. Mais peut-être rappeler que tous les contenus qui sont publiés sous Wikipédia le sont sous licence libre, qu'il y a une dizaine d'années, on trouvait que c'était du contenu qui était en général pas sérieux, même les profs disaient que c'était pas une bonne source. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même une des sources d'information les plus majoritaires, que c'est correctement sourcé, donc c'est quand même un exemple emblématique de l'intelligence collective et de ce que permettent les licences libres dans le sens construire des communs.
Bah, je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, Quentin. Je sens que tu as envie là, qu'on complète, mais non, tu l'as clairement dit. Hein, c'est Wikipédia aujourd'hui, c'est l'exemple le plus important de culture libre. On a parlé de modèle économique, on peut aussi en profiter pour rappeler que Wikipédia, que les initiatives libres d'une certaine façon ont quand même besoin d'une économie. On a cité Framabook tout à l'heure. Un Framabook fait partie de Framasoft. Framasoft vit des dons. Eh bien, Wikipédia aussi. Hein, Wikipédia a décidé de pas vendre de publicité, de pas collecter et de revendre de données. Donc, ils vivent par les dons de leurs utilisateurs. Donc, si vous êtes un utilisateur régulier et que vous avez de quoi, vous pouvez donner 1€ ou 10€ par mois à Wikipédia.
Et notons d'ailleurs que c'est déductible des impôts à hauteur de 60 ou 70%, je crois.
Ouais, 70, je crois. Ouais.
Bon, enfin, une partie, en tout cas.
Ouais. Yes.
D'autres exemples, on enchaîne ? On pourrait parler d'OpenStreetMap rapidement. Alors, des exemples qu'on a déjà traités pas mal dans l'émission, hein, mais on peut juste les rementionner peut-être rapidement sans repasser trop de temps. Je les cite, si quelqu'un veut en dire un mot, OpenStreetMap. Même principe que Wikipédia. Map,
le Wikipédia de la cartographie.
Voilà, hein, donc oui, sur le même...
Bon résumé.
Sur les mêmes principes qu'on peut consulter donc sur openstreetmap.org ou notamment si on veut faire du calcul d'itinéraire, quant.com/maps marche plutôt pas mal.
On peut citer Dogmazic aussi, parce que c'est là où on va la plupart du temps se fournir en termes de musique libre. Donc pour le coup, c'est vraiment une mine d'or, hein, des dizaines de milliers de titres, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. dogmazic.net.
En termes, on a parlé musique, on pourrait parler un petit peu photo. Vous avez Pixabay.com, par exemple, qui diffuse une très très grande quantité d'images, de photographies, avec des choses très très qualitatives.
Petites illustrations qui servent très bien dans les présentations, quoi.
Ouais, par exemple. Donc, ils ont diffusé longtemps sous CC0. Et aujourd'hui, ils ont créé leur propre licence. Alors, j'avoue que je ne suis pas allé revoir en détail, mais je pense qu'elle est, elle est compatible. Et eux, leur modèle économique, c'est une partie des photos, en fait, vous ne les trouverez pas dans les plus hautes résolutions gratuitement. Il faudra vous créer un compte pour pouvoir les obtenir dans les plus hautes résolutions. Mais la consultation des images, encore jusqu'à des résolutions très raisonnables, hein, est tout à fait libre. On a cité Framabook, on a cité donc papercarotte.com, je recite le site de David Revoy, donc à retenir comme un des exemples les plus emblématiques de réussite à la fois libre et commerciale. On pourrait citer une radio libre ou deux, par exemple, vous en avez une ou deux en tête, non ?
On peut aller sur radio.picassoft.net pour écouter les podcasts de cette émission.
Ouais, et puis il y a d'autres chatons comme nous qui font la même chose. Il y a la radio de l'April, ouais, par exemple. On peut trouver de la vidéo libre. On peut trouver de la vidéo libre sur framatube.org, sur le réseau Peertube en général, sur framatube.org. On peut trouver des petits courts-métrages qui ont été créés par Blender, un logiciel que je ne connais pas très bien, mais qui sert dans le domaine du jeu vidéo, de la création vidéo. Et donc, on peut trouver sur pitch.blender.org et sur orange.blender.org deux courts-métrages assez sympas. On avait cité également la vidéo The Yes Men Fix the World, donc qui est également sous licence libre. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses en tête comme ça. Bon, on fera pas le tour. Hein, mais...
ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein, ouais. Mais
voilà, on a vu qu'il y avait du livre, de la BD, de la musique, de la vidéo, de la radio. Bref, à peu près tous les médias sont représentés. On peut trouver des choses sur framalibre.org également, yes. Complémentaires.
Bon, allez, quelqu'un veut conclure avant de passer au quiz ou est-ce qu'on est bon ?
Eh bien, écoute, on peut peut-être enchaîner sur le quiz. On peut peut-être s'y mentionner avant la fin de l'émission que on va mettre à disposition sur le site librecours.net donc des cours d'initiation droit d'auteur et licence libre. Pour les UTC1, ça donnera lieu à une API dès l'intersemestre prochain. Et on ouvrira ce cours au reste du monde avec Framasoft en début d'année 2020. Voilà.
Trop cool, bravo. Du coup, qui veut nous lire le quiz ?
Bah, du coup, je vais le faire. Donc, je trouve une photo de pingouin sur Wikipédia et je souhaite l'utiliser comme logo pour mon super club de peinture. Et du coup, sous quelles conditions je peux recopier et rediffuser cette photo ? Donc, je fais ce que je veux parce que c'est sur Internet et donc c'est à tout le monde. Je dois envoyer un mail pour obtenir la permission aux personnes qui gèrent Wikipédia. Je peux le copier à ma guise tant que je cite la source, donc Wikipédia avec l'adresse du lien pour faire bien. Sinon, je transforme l'image. Il faut que la nouvelle version que j'ai faite de cette photo soit sous licence CC by SA ou une licence équivalente. Ou je ne peux pas copier car copier c'est mal.
Ça me fait penser au vieux truc, vous voleriez une voiture. Vous avez connu ça, j'imagine.
Ouais, je suis les DVD, c'était génial.
Ok, bon, ça fera sans doute aussi l'objet d'une autre émission. On va passer à la musique avant de donner la réponse au quiz. Alors cette semaine, on va écouter le morceau Audrey par Johnny Ripper sur l'album Soundtrack for a Film That Doesn't Exist. Juste un petit mot dessus, et c'est vraiment un album sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Le principe, c'est justement une bande-son de film, mais pour un film qui n'existe pas et dont vous pouvez vous faire les images dans la tête. C'est très évocateur, c'est super, et c'est sous licence CC by NCSA, déniché sur le site freemusicarchive.org. We'll be right back. Et de retour dans la voie libre. Bon, alors il est temps de répondre au quiz. Romain, je te laisse nous rappeler une quiz.
Donc du coup, j'avais trouvé une photo de pingouin sur Wikipédia et je voulais savoir si je pouvais l'utiliser pour mon club de peinture. Je ne peux pas faire ce que je veux parce que c'est sur Internet. Hein, tout ce qui est sur Internet n'est pas libre d'utilisation. Je n'ai pas non plus besoin de demander la permission aux gens qui gèrent Wikipédia puisque en réalité, ce qui est publié sur Wikipédia est publié sous licence libre. Du coup, je peux le copier à ma guise tant que je cite la source. Quand je fais une œuvre dérivée, je dois la publier sous une licence qui est compatible avec CC BY SA. Et je peux bien évidemment du coup la copier.
Eh ben nickel, merci Romain. Pour finir la mission, je propose de filer quelques liens qui correspondent à ce dont on a parlé.
Ouais, on peut citer déjà le blog de Calimac, du coup, qui est sur
scinfolex.com.
Et on peut aussi citer framabook.org/option-libre, qui est donc le livre
de Benjamin.
Voilà. On peut citer aussi quant.com/maps, qui sont en fait une alternative à Google Maps et ce sont des maps libres.
Donc ouais, c'est basé sur OpenStreetMap, hein, ouais. Vraiment super intuitif, c'est tout cool. Exactement, ouais. On avait papercarotte.com, hein. Stéphane, tu l'avais mentionné, tu avais également mentionné Pixabay, donc PIXABAY.com, une banque d'images libres. Et puis enfin, pour regarder le court-métrage dont tu as parlé, orange.blender.org. Moi voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous. Et puis encore merci à Lionel pour ses super cours sur le droit d'auteur et licence libre. Sous licence libre, justement, la semaine prochaine, on se retrouvera, je dis ça pour nous mettre la pression, pour parler sans doute recherche scientifique et le rapport avec les licences libres et la création de communs. D'ici là, on vous souhaite une bonne matinée. À la semaine prochaine. Salut à vous.
Salut Quentin.